Nous avons étudié les thèmes de la Sidra des deux jours de Rosh Hashanah. Et puis nous avions prévu pour aujourd'hui, c'était lundi dernier, c'est ça? Oui. Et nous avions prévu pour aujourd'hui d'étudier le Piyud des Slichot qu'on appelle Akedat Yitzhak, qui reprend le récit de l'Akedat Yitzhak dans le Marzor lui-même. Alors, je vous avais promis de vous donner une petite biographie de l'auteur. Enfin, retenez très simplement que, traditionnellement, on l'attribue à Judas Lévi. Les critiques historiographes, je ne sais pas comment on les appelle, contemporains, en se basant sur ces Bereshit.
Bereshit.
Non, Bereshit.
On
ne
peut pas regarder.
Et en se basant sur les acrostiches de chaque paragraphe, qui vous donne, je ne sais pas si ça vous signale, si vous avez des signalés là, comme j'ai pas ma loupe, alors vous allez lire avec moi, parce que, ah oui, ça vous est signalé, Achim, Abbas, Yehuda, Shmuel, vous y êtes, dans la deuxième ligne avant le, hein, Ushmam Berachatevot, c'est ça? Oui. Et alors, j'ai estimé que, indépendamment de cela, le rabbin Khalifa a établi qu'il s'agit quand même de la famille de Judas Lévi, et que ce nom, c'est le nom des trois frères, et vous avez Yehuda au milieu. Okay. Donc, c'est probablement de Judas Lévi lui-même. Quoique, d'une façon générale, le style n'est pas tellement le style de Judas Lévi, mais ce poème a gardé une très grande... comment dire? Une très grande... Pirsum. Popularité, je crois. Notoriété, oui. Dans toutes les communautés des Sfaradim, et il a été adopté dans certaines communautés des Ashkenazim aussi. Je vous signale qu'il y a un deuxième piyut bâti sur le même modèle poétique, qui est attribué à Maïmonide, qui est de Maïmonide d'ailleurs, et qui lui n'a pas pour thème la Akedat Yitzhak, mais la Tshuva, les jours de Yamim Noraim, un texte un peu plus difficile, peut-être une autre année, à moins qu'on ait encore le temps aujourd'hui, je vous le dirai. Hein? On n'entend pas. Et je sais, moi non plus je ne m'entends pas d'ailleurs, j'entends pas le head, mais ça va sûrement venir. Alors je vous propose d'avoir sous les yeux le texte de la Akedat Yitzhak dans les livres de Bréchit. Je vais vous redonner le chapitre. Et nous allons tout de suite commencer le texte lui-même. Alors c'est chapitre... La fin de Vayera. 22 peut-être. Chapitre 22, oui. Telle sorte qu'on puisse se référer aux versets eux-mêmes. Et alors, nous allons voir d'ailleurs que dans le texte du poème, le sens exact, d'après la tradition du Midrash et du Talmud, est repris dans le récit. Alors, je prends dès le début. Et Sha'ari Ratzon Lehipater. Vous allez retrouver le style de la poésie du Sfaradi du Moyen-Âge. Je traduis en même temps que j'explique. Qui ne sait absolument rien en hébreu? Bon, alors ça va. Donc je peux utiliser l'hébreu quand même. Et Sha'ari Ratzon Lehipater. Lorsque c'est le temps pour les portes. Les portes, je ne sais pas s'il y a un mot comme ça en français, le fait d'être agréé, comment ça se dit, Ratzon. Ratzon, ça veut dire la volonté. Mais ici, ça a le sens de la bienveillance, le bon vouloir. Et donc, quelqu'un qui demande l'ouverture des portes des Sha'ari Ratzon demande d'être agréé dans sa prière. Alors, être au temps où Sha'ari Ratzon Neipatear, c'est le temps pour les Sha'ari Ratzon d'être ouvertes. Et Sha'ari Ratzon Neipatear, Yom Ehye, au jour où je suis, bien que la forme soit future, Yom Ehye, au jour où je serai, mais dans le sens de au jour où je suis, Kapai Leel Shotear, Shotear Kapai Leel, où je suis, Shotear, comment dire, tendant mes pommes vers Dieu, Je reprends les deux phrases. El charei ratzon leipateach, yom eye chapai leel shoteach. Alors il y a donc un moment privilégié dans le temps de Rosh Hashanah et dans le temps de Kippour, où, dans la définition de ce qui est visé ici, les charei ratzon s'ouvrent. Il y a hamishim sha'arim, 50 portes différentes, et une de ces portes s'appelle, entre notre monde et ce qu'il y a plus haut, une de ces portes s'appelle Sha'arei Ratzon. Vous avez certains textes du Talmud, déjà, qui font allusion à cette notion que entre les mondes supérieurs et nous, il y a des sha'arim qui s'ouvrent ou qui se ferment suivant l'ordre du mérite. Par exemple, il y a une Gemara célèbre qui dit « Miyom shenehra bet amigdash, sha'arit fila nina'alu » Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les portes de la prière ont été fermées. Ninalou s'est verrouillé. Okay. Aval, vous connaissez la suite? Qui connaît la suite? Sha'are Dima, le Ninalou. Mais les portes des larmes n'ont pas été fermées. Et ça m'appelle un midrash des Chassidim. Vous avez remarqué cela, à quel point la prière entraîne très souvent le fait, j'allais dire, d'avoir envie de pleurer, mais de pleurer. Et on raconte qu'une fois, je ne sais plus chez quel grand chassid, le tzaddik de la communauté n'arrivait pas le soir de Kol Nidre à commencer la tefila. Et alors, n'arrivait pas. Et la communauté était très inquiète, ça ne commence pas. Et puis finalement, il dit, je ne peux pas, c'est fermé, les sha'arei tefila sont fermés. Et puis il leur dit, vous allez aller dans la ville me chercher 10 brigands, des brigands et des juifs autant que possible. On lui a trouvé 10 juifs brigands. Il les a mis autour de la Teva et il a commencé la tefila et la tefila a monté. Alors après on lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Alors il a dit, les portes étaient verrouillées, il me fallait des spécialistes. Ça c'est vraiment de la chassidoute. Il fallait, comment dire, à main armée, forcer les postes. Alors, et Charlie Ratson Neipatear, pour Shoshana, ce moment est après la lecture de la Torah, c'est le moment du commencement de Moussa. Donc, après la lecture de la Torah, avant l'Atkeat Shofar, qui est entre Shachrit et Moussa. C'est avant Moussa. Et pour le jour de Kippour, c'est le moment de Mincha. Alors, d'après la tradition de la Kabbalah, le Zohar en particulier, l'Akedat Yitzhak a eu lieu le jour de Kippour. Et si nous avons le temps, je reprendrai le compte du calendrier pour l'indiquer. Donc je reprends la lecture. Et Sha'arei Ratzon Neipateach, Yom Ehye Chapai Leel Shoteach. Là, c'est déjà clair. Le jour où je serai, Shoteach Chapai Lifnaed. Anna Zechor Nali Beyom Ocheach, de grâce, Anna, rappelle le souvenir, tiens compte du souvenir pour moi, Li Beyom Ocheach, le jour de la Tochacha, le jour de la réprimande, le jour du jugement, le jour où il faut faire la preuve. Vous avez en hébreu le mot de Tochacha, c'est le sens ici, Tochacha, c'est la admonestation, réprimande. Okay? Et Tochachot de Nevi, interpellation de réprimande. Ochacha, ça veut dire faire la preuve. Lorsqu'on est interpellé en vue de faire la preuve. Et là, le refrain qui est devenu traditionnel, c'est Roket Verneaikad Vermisber. Donc, rappelle le souvenir du Roket, de celui qui a attaché. C'est le sens de Akedat Yitzhak, que Yitzhak a été attaché sur l'autel, la Hakod. Verne Aikad est celui qui a été attaché, Vermisbeach est l'autel sur lequel cela s'est passé. Il y a trois moments, trois facteurs, le Roked, le Neaikad et le Misbeach. Il y a trois niveaux de la sainteté et du mérite de la sainteté auquel il est fait allusion. Et nous avons déjà un peu parlé de ce thème. La semaine dernière, c'est-à-dire le jour où nous sommes interpellés par la Minat Hadin, alors nous demandons que le zchout du tzaddik de la Minat Hadin, de l'épreuve de la Minat Hadin, soit rappelé en faveur d'Israël, en protection pour Israël. Et j'ai apporté, mais je ne l'ai pas descendu, un livre avec une traduction française de, qui est apparu il y a une centaine d'années en France. Vous connaissez la série des livres de Durlacher, les traductions. Et alors, la traduction qu'il donne là-bas, c'est « Le sacrificateur, la victime et l'autel ». Vous voyez à quel point les gens sont dans un tout autre monde culturel.
Et tu l'as aussi.
Vous l'avez là ? Ah ben c'est ça. Oui, c'est ce livre-là. Je voulais vous la montrer d'ailleurs, si quelqu'un, la première édition. D'accord. Donc celle-là est récente.
Hein?
Oui, non, je cherchais l'année. Ça c'est 1948. Mais c'est la même. Non, c'est pas la même. Ou là, il y a quelqu'un, je n'ose pas lui demander. Sur mon bureau ou dans mon tic, il doit y avoir un petit chose. Je vous dirai la date, c'est la première édition. Alors, je vais quand même vous le lire. De la grâce aujourd'hui, les portes sont ouvertes. En s'attestant, nos mains s'élèvent vers le ciel. Rappelle-toi, Seigneur, en ce jour de justice, le sacrificateur, la victime et l'autel. Il n'y a pas de rime, mais enfin, il y a le rythme des Alexandrins, à tout le moins. Alors, c'est évidemment pas le sacrificateur, la victime et l'autel. Il n'y a pas eu de sacrificateur, il n'y a pas eu de victime, bien qu'il y ait eu un autel. Et c'est Roquet de Vanerica de Vamisbert. Alors nous avons étudié, après la lecture du texte, comme premier thème, le thème de, indiqué par ce verbe, la hakot, qu'est-ce qui s'est passé dans cette hakeda. Ce sera la première étude. Alors, on va attendre, voilà. Voilà, le livre en question, alors je vais dire de quelle date il est. 1864. Top. Alors, la première, ça c'est le refrain. Et d'ailleurs, après chaque strophe sera repris, sera reprise la dernière phrase. Ok, dvaneika, dvamisver. Alors, premier paragraphe. Beharit. À la fin, l'allusion est ici au fait que Abraham a été éprouvé 10 fois. Be'asara nisyonot nitnasa Abraham Avinu, c'est une Mishnah du 6e chapitre de Pirkei Avot. Et la dernière de ces 10 épreuves, c'est cette épreuve de Akedat Yitzhak. Alors voilà donc le texte. Be'aharit, à la fin, Moussa a été éprouvé. Be'sofa asara, à la fin des 10, sous-entendu épreuve, de la manière suivante. Haben asher nolad lecha mi Sarah, le fils qui t'a été enfanté de Sarah, et à quoi cela renvoie? Le fait que très longtemps, Abraham a hésité de comprendre, de savoir si le fils promis dans la promesse de la fécondité de sa postérité serait Ishmael ou Yitzhak. Et ça se réfère, vous pouvez déjà le prendre dans le texte, au deuxième verset, dans le Chumash, que nous avons déjà cité la dernière fois. Bayomer, Kachna et Bincha et Yehidecha, Sherahavta et Yitzhak. Regardez la progression. Le Midrash dit qu'il fallait que Abraham se prépare d'étape en étape à l'épreuve elle-même, d'avoir à rendre à celui qui lui avait donné, Yitzhak lui-même. Mais à travers même ce midrash, nous voyons qu'il y a les différents critères de sélection pour arriver à Yitzhak. Et je cite donc le midrash. Quand Dieu lui demande « Bincha, ton fils », il répond « Les deux sont mon fils ». Et « Yehidecha, ton unique », il répond « Les deux sont uniques pour leur mère ». « Ashera hafta, que tu aimes », »« Les deux, je les aime », et « Yitzhak », c'est le niveau. Donc on retrouve ici l'atmosphère de ce même enseignement, Aven Asher Noladecha Misara. Et là, il y aurait à reprendre, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui, la différence d'identité entre ces deux lignées, toutes deux ayant pour principe le même tzaddik, Abraham, l'une qui va aboutir à Ishmael et l'autre qui continue l'histoire de Toladot à travers Yitzhak. Vous voyez donc que la forme même qui nous est donnée dans le texte est très directement liée à l'enseignement traditionnel. Haben Asher Nolad Lecha Misara, Ce que je veux dire, c'est pas stam, c'est pas simplement une information en passant. Im nafshecha bo ad meod nikshara, bien que, ici le im a le sens de bien que, qu'il a très souvent dans le mikra d'ailleurs, bien que ton nefesh, très beaucoup, il faudrait dire, ad meod, extrêmement, est lié à lui, l'expression est prise dans quel récit? L'expression est prise dans un des récits de l'histoire des patriarches, mais pas d'Abraham. Non, Benyamin, très bien. Venafsho, Keshura, Benafsho. C'est-à-dire, le nefesh du fils est attaché au nefesh du père. Ça, c'était lorsque Judas plaide pour que Joseph ne fasse pas descendre Benyamin de Retz Knaan, en disant Vaivater, ou Levado, les Imo, Veavi, Vahevo, non, c'est pas ce verset, c'est juste avant ou juste après, Venafsho, Keshura, Benafsho. Vous voulez qu'on cherche le verset ? On va le trouver tout de suite, c'est dans... Vaigash. Il y a fait. Vaigash. Il y a l'expression « Be'azav et Abiv va mettre... » que vous voyez l'âme de Chahavi, Vanahar et Nenu Itanu, Venafsho, Keshura, Venafsho. C'est Judas qui dit à Joseph, et maintenant, quand je reviendrai chez ton serviteur, mon père, et que l'enfant ne sera pas avec nous, or, Nafsho, Keshura, Venafsho. Son effet, je vais lier à son effet. Ça veut dire, si Jacob voit que Benjamin n'est plus là, eh bien, il risque d'en mourir. La fin de Benjamin serait la fin de Jacob. Alors, avant de revenir ici, le lien qu'il y a entre le nefesh de Yitzhak et le nefesh d'Abraham, vous rappelez ce que nous avons appris à propos de Yaakov et Binyamin. C'est-à-dire, encore une fois, cette expression « Benafsho, Kshura, Benafsho », ce n'est pas stam, ce n'est pas une information des liens affectifs qui les lient, vous voyez tout l'exposé littéraire qu'on pourrait faire là-dessus. C'est que Binyamin représente la dernière chance d'Israël. Vous vous rappelez de ça ? On n'a pas étudié cela ? C'est-à-dire, si Binyamin disparaît, il n'y a plus d'Israël. Le nefesh de Yaakov dépend du nefesh de Binyamin. Et ça joue un très grand rôle dans, ensuite, la lutte des deux tendances messianiques dans l'histoire d'Israël, celle qui va du côté de Joseph, celle qui va du côté de Judas. C'est là où se trouve Binyamin que passe l'avenir messianique de l'histoire d'Israël. Vous vous rappelez de ce thème ? Alors, nous avons le même problème ici. Bien que Nafshecha bo ad meod nikshara, bien que ton nefesh est admeod, extrêmement, kshura, nikshara, c'est pour la rime, okay, à celle de Yitzhak, mets-la en question dans cette épreuve. Ça veut dire, si Yitzhak ne continue pas l'identité d'Abraham, Abraham disparaît. Parce que Abraham, c'est la première étape de l'identité d'Israël. Si elle ne mène pas à l'identité Yitzhak, la Bible n'aurait jamais parlé d'un Abraham qui aurait engendré Ishmaël. Ça ne nous concerne pas. Elle n'en parle que parce que les engendrements ont abouti jusqu'à Israël. Et donc, le nefesh d'Abraham est kashu, kshura, c'est au féminin, au nefesh de Yitzhak. Ça veut dire la mise en question de Yitzhak met en question Abraham. Mais ce qu'il y a sous-jacent dans l'expression, c'est bien clair ? Bien sûr, ça veut dire, pourquoi la Torah nous a raconté l'histoire d'Abraham ? Parce qu'elle devait raconter l'histoire d'Israël. Et pourquoi elle devait raconter l'histoire d'Israël ? Parce qu'elle devait raconter l'histoire de Jacob. L'histoire d'Abraham nous est racontée comme une préface, préhistoire de l'histoire de Jacob qui est Israël. Alors, un Abraham qui aurait donné Ishmaël et pas Israël aurait disparu du récit. Il aurait été dans un quelconque midrash d'Etolado qui aurait repris à un certain moment pour donner un Israël vraiment. C'est-à-dire, le tzaddik de la Midat HaChesed qui n'aurait pas donné le tzaddik de la Minat Adin, Abraham Yitzhak, la Torah ne nous en aurait pas parlé comme quelque chose d'exceptionnel. Il y aurait eu un remez que des Yechides Goula, des tzaddikim qui a eu Bechol Dar Vedar depuis Adam Rishon, de génération en génération. Nous savons par les Midrashim qu'il y a eu aussi des tzaddikim, qu'il y a eu aussi des chassidim, qu'il y a eu aussi des Nevi'im. Mais ils n'ont pas fait partie de la lignée des Toladot qui ont amené à Israël. Vous avez compris le... Ça veut dire que je vais vous dire tout de suite comment le Midrash exprime ce même thème. C'est que la gravité de l'épreuve, c'est que il s'agit de rendre à Dieu ce fils de la promesse qui a été si difficile à engendrer, à mettre au monde. À la limite, il y a le fait que ça annule par l'absurde tout l'enthousiasme de sainteté qu'il y a eu jusque-là. Et l'énorme capacité de fidélité d'Abraham à la promesse de Dieu va s'annuler dans cette épreuve-là. Cet enfant que tu m'as promis, je vais vous montrer tout à l'heure dans à propos de quel verset dit ce midrash, tu me le redemandes. Par conséquent, ça annule dans l'absurde tout ce qui s'est passé jusque-là. Donc voilà pour Imnafrecha bo admeo nikshar. Et après, nous verrons quelle est la logique ou la cohérence de cette mise à l'épreuve. Koum, va, lève-toi, alehuli le'ola bara. Érige-le en ola. Ola, ça veut dire sacrifice. C'est le mot hébreu qu'il faudrait traduire par holocauste. Okay? Sacrifice qui tout entier est brûlé, qui tout entier monte. Bara, pur. Déjà, je vous indique que ici, l'auteur du poème, quoi qu'il en soit, Yehuda Lévi ou toute sa famille, a tenu compte d'un enseignement que va reprendre le Malbim en nous disant dans le pshat du verset que vous avez au verset 2, vers la fin du verset 2, vous reprenez votre texte. Et Tichitra, Shavata, Yitzhak, Velechrecha, Eleretz Amoria, Va'alehu, Sham Le'ola. Vous voyez l'expression. Littéralement, fais-le monter en Ola. Il n'est pas du tout indiqué qu'il doit y avoir un sacrifice dans le sens de Shrita. Okay? Pourquoi? Parce que l'expression du Mikra pour dire le sacrifice de Ola, c'est la Asot Ola, Aso Ola, et pas les Ha'alot Ola. C'est clair? Par conséquent, dès le début, nous sommes avertis qu'il se passe là quelque chose d'autre que le fait de répondre à, je cherche le mot français, ça se dit, me revient le mot de la théologie chrétienne, élévation, assomption. Okay? Le fait de répondre à cette interpellation d'assomption, si j'ose dire en français, tu te retrouves à Grenoble d'un coup, n'a pas à se faire par un sacrifice. Ça, c'est la halakha de ce temps-là. Ça veut dire c'est la coutume religieuse de ce temps-là que pour offrir son fils à Dieu, on l'égorgeait. Et c'est pas cette halakha-là, si j'ose dire, qui est forcément demandée par le verset. Si le verset l'avait demandé, il aurait dit « Asso, et tu le feras, Ola, et pas tu le feras monter en Ola. » Vous voyez qu'il faut l'hébreu pour arriver à comprendre plus précisément. Un midrash dit « Il fallait l'envoyer à la yeshiva. » C'est ça l'holocauste. Et d'ailleurs, on sait qu'à la fin de la Akeda, il allait passer 12 années, je crois, à la yeshiva de Shem Hever. Okay. Donc, « Koum a'alehouli l'erola bara. » Et alors, on voit l'intervention de ce midrash qui nous dit que Dieu avait d'une certaine manière besoin d'Abraham. C'est pourquoi il y a « Kahna, je t'en prie, prends-le, je t'en prie, aide-moi dans cette épreuve, » dit Rashi, en citant le midrash, de montrer que Dieu avait besoin qu'Abraham démontre par son témoignage qu'il était capable aussi de la religiosité d'égoïsme. Parce que la grande contestation du Satan en haut, c'est de dire ton préféré, ton élu, il n'est même pas pieux. Pourquoi? Parce que être pieux, c'est être pieux comme l'égoïsme. Mais la contestation d'égoïsme à travers les paroles du Satan. Alors il faut faire la preuve qu'on est aussi capable de la manière d'égoïsme d'être religieux, si j'ose dire, mais ne pas de l'être, faire la preuve qu'on est capable de l'être, mais pas de l'être. Je ne sais pas comment vous dire ça. Une image, en fait, qui me revient souvent. Le Satan dirait, ils te construisent des cathédrales. Qui? Les goïmes. Bon. Et tes juifs ne sont pas capables. Regardez où on fait la preuve. Et alors, les juifs doivent faire la preuve qu'ils sont capables de construire des grandes synagogues. Mais de ne pas les prier là-bas. Je n'y crois yeshiva. C'est Chochmat ben Ekedem.
Non,
Abraham, tsarich leochiach שהוא מסוגל להיות דתי כמו הגויים. Là, okay. Je vais le dire en français. On revient sur la même question. Vous rappelez que Rashi cite un certain nombre de midrashim parmi d'autres. La question du midrash c'est Vayi Aharei Devarim Haele. Il arriva après ces paroles. Et le sens habituel c'est il arriva après les événements précédents. Devarim Haele c'est les événements précédents. C'est clair. Il y a d'ailleurs une indication dans le midrash qui dit il faut lire Mais Aharei Devarim Haele. Il arriva que ce qui était impliqué dans les événements précédents doit être mis en évidence dans une épreuve. De quoi s'agit-il vraiment? Un de ces midrashim, c'est de dire que le Satan conteste le choix qu'a fait, que Dieu a fait d'Abraham en disant « Azakenazé, ce vieillard, tu lui as donné un fils. Il a fait une fête, vous rappelez, le jour où il a été
sauvé,
Igamel. Et il a abattu des troupeaux entiers pour faire la fête pour ses amis. » Et pour toi, il n'a même pas abattu un taureau, un bœuf, un agneau. Vous vous rappelez de ce midrash? Et Abraham répond, tout cela, je ne l'ai fait... Non, c'est vrai, Dieu répond, tout cela, il l'a fait pour Yitzhak, mais si je lui demande Yitzhak en sacrifice, il me le donnera. Alors ce que je voulais ajouter, c'est que, pour bien comprendre la cohérence de ce midrash, où est l'épreuve? Il faut qu'Abraham fasse la preuve qu'il est tzaddik. Et vous voyez que ça répond à la tentation que les goyim ont lorsqu'ils parlent de cette histoire de dire que le choix d'Abraham a été gratuit et qu'il faut qu'Abraham le justifie par, en faisant la preuve. Nous savons d'autre part que le choix d'Abraham n'est pas gratuit. Et c'est une autre étude, mais qui vient avec les textes précédents. Abraham n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, si la Torah nous dit de façon circonstanciée depuis Adam Arishon d'où vient Abraham, c'est pour nous faire comprendre pourquoi c'est Abraham qui est choisi. Vous savez que là, l'approche des goyim de ce récit consiste au contraire à fonder la notion du choix arbitraire de la grâce absolue de celui que Dieu choisit. Or, le récit de la Torah dément cela. Il y a des raisons pour lesquelles Abraham est choisi. Et c'est pourquoi la Torah nous donne une très longue préface de la carte d'identité d'Abraham pour nous dire qui est Abraham. Ça ne signifie pas qu'Abraham ne doit pas justifier l'identité qu'il a en potentiel, si j'ose dire, d'où ces 10 épreuves dont on a parlé, il faut qu'il fasse la preuve qu'il est bien Abraham, mais il n'y a qu'Abraham qui peut être choisi. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Okay. Et donc, la contestation, c'est de dire qu'il y a une espèce d'injustice a priori. Et on va élargir d'ailleurs la formule. C'est un peu cette contestation qui consiste à dire pourquoi Asher Bahar Banu, pourquoi ce choix gratuit de ce peuple plutôt qu'un autre? On retrouve d'ailleurs dans le midrash qui est fait par Ishmaël, lorsqu'Ishmaël dit c'est moi le véritable aîné, c'est moi le véritable fils d'Abraham, parce que toi, Isaac, la circoncision, tu l'as eu à 8 jours, on t'avait demandé ton avis, tu n'avais gagné aucun mérite, alors que moi, c'est adulte, à 13 ans. Vous voyez cette contestation de ces deux religions qui viennent du judaïsme, si j'ose dire, enfin, qui se prétendent être d'origine biblique, qu'il n'y a pas de mérite à l'élection d'Israël, et que le mérite, selon l'esprit, va à ceux qui ont adopté par eux-mêmes la parole de Dieu, alors qu'elle est imposée à Israël. On pourrait le dire de différentes manières, j'ai un peu des difficultés d'expression, mais vous comprenez un peu l'idée. Et alors, il faut faire cette preuve. Et là, je reviens à ce point précis, c'est que le Satan réclame, ça c'est vraiment dit vrai Satan, qu'Abraham fasse la preuve qu'il est au moins capable de la piété des goyim. Alors, semble-t-il, tout s'enclenche. Abraham est tenté de faire la preuve qu'il est capable de cette piété suprême qu'on trouve chez les goyim, que le premier-né est offert en sacrifice en l'honneur de la divinité. Vous avez compris le problème? Okay. C'est-à-dire, on pourrait se demander, revenu à ce stade culturel, on pourrait se demander, mais où est le mérite d'un tel sacrifice? C'était ça le sacrifice religieux banal chez les goïms, offrir le premier-né en sacrifice. Vous vous rappelez de ce que disent les historiens des religions à ce propos? De la même manière qu'on pourrait se demander, mais où est le mérite de la foi d'Abraham quand Dieu lui promet d'avoir un enfant? Mais c'est banal d'avoir un enfant. Vous avez compris? Donc, c'est que les choses ne sont pas si simples. Alors là, Abraham, si j'ose dire, est tenté de conduire cette épreuve selon la halakha en usage en ce temps-là. Lorsque Dieu demande les ha'alot ola, il dit halakha le ma'asé, la asot ola. Mais ce n'est pas ça que Dieu a demandé. C'est bien clair. Okay. Un verset que je vous ai cité la dernière fois de Jérémie qui dit va'asher lo alta alibi. Une chose qui ne m'est jamais venue à l'esprit. Dieu, vous êtes en train de faire sacrifier vos enfants. En croyant que c'est ça que j'ai demandé à Abraham, dit Rachid. Et je ne lui ai jamais demandé ça. Comment tu as jamais demandé ça? C'est écrit. Et je sais pas, j'ai pas de livre français ici, mais vous lirez dans les traductions. Et je sais pas comment on vous traduit. Et offre le mot en holocauste. J'en sais rien. Eh bien, voilà ce que dit Malbim. Regardez bien le texte. Les ha'alot ola et pas la ha'asof ola. Alors, où est l'explication que je voulais vous citer? C'est important de le comprendre. Abraham est interpellé. Es-tu capable d'être au moins pieux à la manière de Goïm? C'est un sujet qu'on pourrait étudier que pour lui-même. Okay. Parce qu'il y a deux dimensions qui me semblent très importantes, au moins à signaler. Précisément, la tentation des Juifs de conduire leur culte à la manière de celui des Goïm. Je ne veux pas dire que c'est pour faire cette preuve-là qu'ils font ça comme ça, okay. Mais on pourrait le mettre en évidence. Et deuxièmement, l'interpellation des Goïm eux-mêmes qui nous accusent, rappelez-vous les historiens romains, okay, d'être le peuple le plus athée de la terre. Et il faut dire d'ailleurs que les Juifs voient ça. Okay. Vous avez compris l'idée ou vous voulez que je développe un peu plus? Non. Simplement, je vous citerai un des slogans qui est très, très à la mode. Chez les intellectuels juifs, si être croyant c'est à la manière des Goïm, alors il vaut mieux être athée. Vous voyez comment ça se rattache au problème, okay. C'est-à-dire que il n'en reste pas moins que il y a une revendication des Goïm par rapport à Israël. Comment se fait-il que ce peuple théophore, ça veut dire porteur de Dieu, okay, théophile, théophore, bon, théophore, soit un peuple athée? Ça ne les gêne pas de nous accuser d'être un État théocratique, c'est notre problème. Okay. Mais il y a là une double tentation du peuple d'Israël. Premièrement, d'imiter la manière des Goïm d'être devant Dieu, et d'autre part, de donner aliment à cette ta'ana du Satan qui porte la revendication des Goïm, et celui que tu as choisi, il est dafka athée. Vous voulez que je vous cite le Midrash? Si je l'ai sur le Satan, je vais essayer parce que je n'ai pas mes yeux, enfin mes lunettes. Et voilà. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yose Ben Zimra. Dans Sanhedrin 89b. Ahar Devarab Shel Satan. Après quoi c'est arrivé que Dieu ait dit à Abraham, prends-moi ton enfant bien-aimé, et puis Aleu Leola. Après les paroles du Satan, vous savez qui est le Satan? C'est chaque fois qu'il y a un doute vis-à-vis du tzaddik, le Satan est celui qui formule à voix haute ce doute-là. Comme je le disais souvent, le Satan ne s'occupe que des tzaddikim. Ça, c'est une surprise. Okay. Chez les goïm, le Satan ne s'occupe que des rechaïm. Alors que pour le Midrash, le Satan ne s'occupe que des tzaddikim. Les rechaïm, il les a déjà. Il est tranquille. Okay. Ça veut dire, là où il y a un doute, alors le Satan intervient, il est l'accusateur public au tribunal céleste. Hein? Attendez, sans l'étudiation dernière, tu n'étais pas là. Les 9 premières épreuves, c'était pour éprouver Abraham, pour savoir si c'était le tzadik de la Midata Chesed. La 10e, c'est pour savoir s'il peut être le point de départ de ce peuple qui doit être tzadik de l'unité des valeurs. Ve'amer kulam tzadikim, mais Shema Israël, Hashem Elkenu, Hashem Echad. C'est pas que Midat HaChesed ou que Midat HaDin, en résumant, il y a 13 Midot, mais le Ichud HaMidot. Alors, Abraham doit faire la preuve qu'il est capable d'être le tzadik de la Midat HaChesed. En cela, il est le commencement d'Israël, mais pas encore Israël. C'est clair. Bon. Seulement, il ne peut être vraiment le Abraham d'Israël et pas seulement le Ibrahim d'Ishmaël, si j'ose dire, mais je crois que c'est clair, on ne peut pas dire ça autrement, que si, étant le tzaddik de la Midata Chesed, il soit capable aussi d'être tzaddik de la Midata Din, bien que ce ne soit pas sa spécialité. Tzaddik de la Midata Din, ça doit être Yitzhak. Et on retrouve ça chez Yitzhak. Yitzhak va être éprouvé 9 fois pour savoir si le tzaddik de la Midata Din, mais 10e fois pour savoir s'il est capable aussi d'être le tzaddik de la Midata Chesed. Sinon, ils ne sont pas dirigés vers Israël, vers Jacob, Israël, qui est l'unité des valeurs. C'est clair jusque-là ? Bon. Par conséquent, cette mise à l'épreuve, nous la voyons, Rashi a cité parmi les Midrashim 2. Parce qu'il y a un troisième groupe de Midrashim qui disent les Hirurim d'Abraham eux-mêmes. Les Devarim de qui ? Les Devarim d'Abraham. En particulier, ce que j'ai cité rapidement tout à l'heure, cet enfant que tu m'as promis, c'est lui que tu me réclames. Et on indexe ça au mérite des pères. Ils n'ont eu que des promesses, ils n'ont pas vu le commencement d'une réalisation. On cite pour Abraham cela. L'enfant lui a été promis, mais c'est l'enfant qu'on lui a demandé. Il a vécu ces épreuves-là, il les a surmontées. Par conséquent, dire à voix haute le doute possible sur l'intégrité d'Abraham en tant que tzaddik, ça c'est le Satan qui s'en fait le porte-parole. C'est bien clair ? J'avais répondu à la question ou j'ai pas. Alors je continue. Achar levav shel Satan, shehaya mekatreg, qui calomniait, pas calomniait, mais enfin qui portait un acte d'accusation. Veomer disait, Mikol seuda she'asa Abraham, de tout le festin qu'Abraham a fait pour fêter son fils, lo ikriv lefanecha par echad o ayil echad. Il n'a pas approché de toi ni un bœuf, ni un bélier. Ken? Un bélier, oui. Amarlo, Dieu lui a répondu, Kloum, Asa, Ela, Bishvil, Beno. Tout cela, il ne l'a fait que pour son fils. Et Ilu, Haïti, Omerlo, Zevachoto. Et si je lui avais dit, sacrifie-le, les fanailles devant moi, Loaya, Merakev. Il n'aurait pas empêché. Ça veut dire, nous avons une histoire périlleuse. Des paroles imprudentes. Ça veut dire qu'il faut y passer. Mais encore une fois, malgré le mot de Zévar qu'on a ici, je reviens au Malbim, c'est l'épreuve d'avoir à faire la preuve qu'il en est capable qui est demandée, mais jamais la chose elle-même. Et donc, retrouver ce verset de Jérémie avec Rashi, qui cite le Talmud, là-bas, « Asher lo alta alibi », une chose qui ne m'est pas venue à l'esprit. Ici, Jérémie a une tochaha, donc une prophétie d'imprécation contre tous ces Hébreux pieux de ce temps-là, qui, faisant comme les goïms, sacrifiaient leur enfant à Moloch, parce que c'est ça la piété. Vous comprenez ? Alors, je reviens donc à ce que je disais. Il y a une interpellation des goïms vis-à-vis d'Israël, dont le Satan se fait le porte-parole. Faites la preuve que vous êtes capable d'être pieux comme nous. Et les Juifs se laissent prendre à ce piège. C'est clair ? Et j'ai voulu dire les deux dimensions à la fois. Quel est le contenu de cette contestation ? Tu vois bien, Seigneur, que c'est un peuple athée. Or, les Juifs jouent à ça. C'est clair ? Bon, alors on dit. « Koum a'alehouli le'olabara al-har asher kavod le'cha zoreach » sur la montagne sur laquelle pour toi kavod la gloire de Dieu zoreach brira. Ça va jusque là? Alors on avance parce que je voudrais qu'on lise quand même tout le texte. Amar le Sarah, il a dit à Sarah qui hamuder Yitzhak, c'est Abraham qui dit à Sarah et hamuder est ton, comment dire, ton Yitzhak, c'est quand même quelque chose de voir Yitzhak Avinu Hamoud. Gadal, il a grandi. Velolamad Avodat Shahak. Et il n'a pas appris l'idolâtrie. Shahak, vous l'avez dans le pluriel, Shahakim, les cieux, c'est un certain niveau des cieux. Donc, Avodat Shahak, c'est l'adoration du ciel, c'est-à-dire l'idolâtrie. T'es clair ? Bon. Eler, hein ? Non, c'est Shahak, regardez bien. Avec un chien, lequel ? Chez Hakim. Ça, c'est un joli midrash qui existe d'ailleurs. Parce qu'une fois dans tout le Mikra, Yitzhak est écrit avec le signe éparche, avec le tzadik. Okay ? Et alors, c'est à ce propos-là. Mais il faudrait partir d'une faute d'orthographe. C'est Avodat Shahab, c'est une expression connue. Vous avez la traduction française sous les yeux ? Qu'est-ce qu'on dit ?
C'est...
Vous voyez, inouï. Et c'est la traduction de, j'allais dire, sacré ange. C'est un sacré ange, clair. Bon, LR, VOREU, et vous allez comprendre la logique du texte immédiatement. J'irai lui enseigner, lui montrer, lui révéler Asher lo el hak, ce qui est la vérité de Dieu pour lui, c'est-à-dire sa loi. Vous avez le mot de hak ici qui est très peu employé en hébreu et qui a le sens qui est employé en arabe. D'accord. Le hak, c'est la vérité absolue. En hébreu, c'est le mot de hok. Attendez une minute que je vérifie bien que je n'ai pas ma loupe. Si dans mon commentaire traditionnel il y a quelque chose sur Shahak, je ne vais pas envoyer créance chez les anges. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien donc chez le sens habituel. Avodat Shahak. Eler veoreu, asher lo el hak. C'est-à-dire, il a dû comprendre comme Avodat Shamaïm. Okay? Mais cette expression Avodat Shamaïm n'existe pas. Si j'ai bien compris. Okay? Ça n'existe pas. Il a mis l'éternel, mais. Shahak voulant dire le ciel, quoique ce mot ne s'emploie pas au singulier, c'est Shahakim. Bon, ça y est, je pense que c'est. Amra lecha adon, elle a dit, va, mon maître, aval al-tihak, ça c'est très joli, mais ne va pas trop loin. Al-tihak, ne t'éloigne pas trop. Anna, il a répondu, yehi liber be'el boteach, que ton cœur ait confiance en Dieu. Shachar veishkim la'aloch baboker. Ce sont deux mots, shachar veishkim, qui ont à peu près le même sens. Shachar, ce n'est pas le substantif, shachar, au matin. C'est shachar, il s'est levé de bon matin. Veishkim, et il s'est levé, la'aloch baboker, pour aller au matin, ushne ne'arav ni mette asheker. Et avec lui, il y avait les deux jeunes gens, des métiers. Il faut toute une paraphrase pour ça. Alors, paraphrase, périphrase, je ne sais plus. Paraphrase. Ils font partie de ceux dont la vie s'arrêtera à la vie terrestre. On les appelle les métimes. Métimes qu'on traduit en général par les mortels, mais qu'il faut donc entendre par ceux qui n'ont pas Olam Haba, et parce qu'ils ne sont pas les hommes de Emet, mais les hommes de Sheker. Ils mettaient à Sheker. C'est clair ? Ces deux Néharim, c'est Ishmael et Eliezer. Vous vous rappelez dans le texte. Yom Ashlishi Nagaou El Heker. Le troisième jour, ils se sont heurtés, ils sont arrivés à, ils ont abouti, El Heker. Comment traduire ça ? Heker, vous connaissez ce mot. Heker, c'est comme Mehka. Heker, ce que l'on recherche.
Hein ?
Oui. Non, pas le puits. Comment on traduit ? Hein ? Au but, oui, j'ai entendu le puits. Comment il traduit là-bas ? Le but, très bien. Vayar, Demut, Kavod, et Abraham vit l'apparence de la gloire, Vehod, de la magnificence, Vayekel, et de ce qui a du prix. Bon, c'est intraduisible dans des mots parallèles, mais vous comprenez l'idée. Ahmad, Vehid bonen lehimashéach. Il s'est tenu debout et il a réfléchi lehimashéach pour comment traduire ça, la cérémonie de l'onction pour lehimashéach pour commencer le rite. Yadron e'arav ki kerav lemor. ces Néharim, ces deux jeunes gens qui étaient avec lui, ont su qu'il les avait appelés pour leur dire « O Haritem Tzas Berosh Har Hamor » et vous avez été appelés à voir la lumière qui scintille au haut de la montagne de Moria, Har Hamor. Vayomru lo neheze rak mahmor. Ils ont répondu, nous ne voyons qu'un trou, un abîme, mahmor. Il faut dire mahamor, avec un shevapatah. Ce mot existe une fois dans le Tanakh, c'est dans le psaume 140, verset 11. Il existe au pluriel, et c'est mahamorot, avec shevapatah. Comment on traduit là-bas, je crois, l'abîme. Okay. Anna, vous voyez, Abraham veut savoir si Eliezer et Ishmael sont capables de percevoir ce que lui, Abraham et Yitzhak, sont capables de percevoir, c'est-à-dire la manifestation de la gloire de Dieu sur le Har Amoria. Dis non, on voit que l'horizon. Okay. Alors, Anna.